France Inter.
On est 15 à avoir jeûné et 2 qui ont réussi à se nourrir de lumière. C'est une nourriture alternative. Ce sont des gens qui ont la capacité de ne plus se nourrir d'aliments physiques. Je ne savais pas que l'homme était capable de faire ça.
Sauf que l'homme n'est pas capable de faire cela. Et pour preuve, en août 2021, une participante meurt au cours d'un stage.
Cette femme de 44 ans avait suivi un jeûne prolongé durant lequel aucun aliment solide n'était ingéré. Il n'y avait pas de suivi, pas d'accompagnement médical au cours de ces cures hydriques, comme l'organisateur les appelait. Elles pouvaient durer jusqu'à 4 semaines. Les participants payaient plusieurs centaines, voire milliers d'euros, selon la durée du stage. L'organisateur, un naturopathe, a été mis en examen pour homicide involontaire, abus de faiblesse, mise en danger de la vie d'autrui et exercice illégal de la profession de médecin et de pharmacien. Ces gourous 2.0 se présentent comme des spécialistes du bien-être, détenteurs d'un savoir-faire unique. Mais pour certains, il s'agit d'emprises sectaires. Les signalements explosent à la Miviludes. C'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Plus de 30% en un an, le Covid est passé par là.
C'est bien évidemment tout ce qui s'est produit autour de la crise sanitaire. Avec là aussi le cumul des éléments apparaissant sur les réseaux sociaux, notamment complotistes, qui aussi contribuent largement à alimenter ces réseaux-là, ces dynamiques-là.
Leurs domaines de prédilection sont la santé, l'alimentation. Ils atteignent souvent des personnes déjà affaiblies par la maladie, dans le doute face à leur traitement conventionnel et souvent démunies face au délabrement du système de santé.
Quand elle était gravement malade au mois de mars 2022, elle sortait d'un jeûne de 30 jours. Elle n'appliquait pas son traitement de chimiothérapie qui était recommandé et qu'à la place, elle réalisait un jeûne avec des prières. Pas nécessairement, ça l'a complètement affaibli.
Le gouvernement promet un plan avant l'été avec une mesure qui pourrait interdire les publicités de soins non conventionnels sur les réseaux sociaux en cas de maladie grave. Parce que sans surprise, c'est sur les chaînes YouTube ou via des boucles de messagerie que ces thérapeutes attirent leurs adeptes. Ce fut le cas de Noémie. C'est le prénom qu'elle nous a donné car l'anonymat a été sa condition pour recueillir son témoignage. Rémi Brancato et Marc Garvenès la rencontrent dans un village de l'Est de la France et elle décrit comment le piège sectaire s'est refermé sur elle. Thérapie alternative, le nouveau risque sectaire, voici leur reportage.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Bonjour.
On monte.
C'est à l'étage. Allez. Merci.
Venez, venez. Je vais juste mettre ça là. J'arrive. Bah, je vais
tout changer.
On va se mettre là, si vous voulez.
Alors, moi, c'est Noémie. Je suis maman de plusieurs enfants. Actuellement, je suis ASH.
Donc, c'est aide-soignante
Non, c'est agent des services hospitaliers. Dans le nettoyage, donc à l'hôpital, quoi. Oui, il faut une obligation vaccinale.
Vous avez été victime de ce qu'on appelle une dérive sectaire. Est-ce que vous pouvez d'abord nous raconter quel a été le déclencheur ?
Quel a été le déclencheur ? Donc, le questionnement par rapport à cette vaccination. Je suis entrée en congé maternité pendant l'obligation vaccinale. Et le fait que je me posais des questions, donc je ne me suis pas fait vacciner pendant ma grossesse. Avec mon mari, on comptait le faire après l'accouchement, justement, pour une reprise de travail, tout simplement pour avoir de nouveau des loisirs avec nos enfants. Et donc, on s'est fait vacciner, première dose, deuxième dose, tout allait bien jusque-là. Donc, j'avais accouché quand même en décembre 2021. Et donc, je me suis fait vacciner en janvier 2022. Donc, jusque-là, il n'y avait pas de souci, première dose, deuxième dose. Et puis, j'ai une personne proche qui faisait partie des soignantes suspendues.
Qu'est-ce qu'elle vous dit ? Qu'est-ce qu'il vous dit à ce moment-là, ce proche ?
Alors, elle me dit « Ah, vous vous êtes fait vacciner ?» Donc après, j'ai répondu « Oui ». Donc elle m'a dit que pour elle, c'était... elle revenait pas, c'était un déchirement, que les vaccins sont faits pour dépeupler, qu'il y a des cochonneries dedans. Donc forcément, moi qui venais d'accoucher quelques mois avant, j'étais quand même assez fragile. Elle me demande de télécharger Telegram. Elle me dit « Je te conseille de télécharger Telegram, tu suis un tel ». Et de là, en fait, on tombe sur d'autres articles, d'autres personnes qu'on commence à suivre, et ainsi de suite, ça s'enchaîne, jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à s'en détacher.
Vous regardez des vidéos, vous lisez voilà, des contenus.
Des lives, je lis des contenus. J'ai commencé à regarder des lives. J'ai commencé à suivre des conseils, notamment à prendre du dioxyde de chlore. Moi, c'est un dérivé d'eau de Javel. Et c'est à prendre toutes les heures. Bon, c'est un produit de dioxyde de chlore mélangé à l'eau qu'on ingère.
Que vous avalez.
Ça paraît fou.
Pourquoi vous a-t-on, entre guillemets, prescrit ce traitement ?
C'était pour se débarrasser des effets soi-disant nocifs du vaccin. On nous conditionne, donc on nous dit que tous les vaccinés sont amenés à... On va tous mourir du vaccin. On se dit, punaise, je suis au courant de choses que personne d'autre ne sait. Mais après, en fin de compte, ça prend une telle ampleur sur le quotidien, sur la vie de tous les jours, qu'on n'arrive plus à s'en défaire. On cherche des réponses à nos questions. Le questionnement du vaccin, moi je te donne la réponse. Les gens qui vont mourir du vaccin, tiens, tu prends du dioxyde de chlore, ça va enlever les effets du vaccin.
C'était une forme de fragilité ?
Je pense, hein. Oui, c'était une fragilité. De toute façon, quand on n'a pas de fragilité, je pense pas qu'on puisse tomber dans des dérives comme ça.
Ça a duré combien de temps, ce que vous qualifiez d'endoctrinement ?
10 mois.
Comment vous qualifieriez l'état dans lequel vous vous trouvez ce moment-là ?
Je pense qu'il fallait pas grand-chose pour que je me suicide, je pense. Hein. Je sais pas.
Ah oui.
Moi, je pense qu'avec ce dioxyde de chlore, je pense que c'est ce que j'étais clairement en train de faire. Hein.
Noémie s'est notamment abonnée au compte YouTube et Telegram de l'Alliance Humaine. Ce site français, opposé à la vaccination, relaie les théories du mouvement américain QAnon. Son fondateur n'a pas souhaité nous répondre. Le site fait l'objet de dizaines de signalements à la Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Ce site a aussi lancé une plateforme, Soignez Heureux, pour prendre rendez-vous pour des soins alternatifs sur le modèle de Doctolib. Noémie a multiplié les consultations pendant 10 mois au téléphone, d'abord gratuites. Très vite, les énergéticiens et autres thérapeutes lui suggèrent des dons libres, minimum 10 euros.
On m'a demandé d'être tranquillement 30 minutes dans une pièce et puis il se passait rien. Hein. Il n'y avait rien.
C'est-à-dire que le seul soin qui était prodigué, c'était de vous demander de vous isoler dans une pièce.
Voilà, c'est ça. Et puis donc, il disait qu'il travaillait à distance ou je ne sais pas quoi. Voilà, ça commence à telle et telle heure. À telle et telle heure, c'est fini. Vous avez senti des vibrations, machin et tout. Enfin, non, rien, quoi. C'est de l'arnaque. C'est un nouveau business.
Pour autant, qu'est-ce qui fait que vous y avez cru, selon vous ?
Une fragilité. Une fragilité. Le confinement, la pandémie, la peur. La peur, la chute d'hormones après la grossesse, plein de choses.
Son mari Kevin s'inquiète de ses dépenses et de l'état de santé de son épouse.
J'ai essayé de faire petit à petit pour qu'elle ne se braque pas trop. Moi, je savais que c'était une secte depuis longtemps, mais je ne pouvais pas lui dire. C'était trop brusque.
Vous pensez à une secte parce que vous vous dites qu'il y a des personnes qui vont profiter d'elle ?
Dès qu'il y a de l'argent, il y a quelque chose derrière, c'est pas normal. C'était plus elle, elle avait les yeux complètement, pratiquement, comme shootée, hein, complètement. Elle était plus elle, elle voulait suicider. C'était plus elle, elle s'enfermait du matin au soir dans la chambre, et la nuit, je veux dire, que sur le portable, tout. À la fin, j'en pouvais plus. Et c'est là que je lui ai sorti, alors, secte.
Quand votre mari vous parle de secte, vous ne réagissez pas.
Pas au début. Puis après, j'ai continué sur les réseaux et comme dit, j'ai vu la parole de trop. C'était que mes enfants, c'était que du matériel, fallait pas s'attacher à ce genre de choses. Alors que pour moi, mes enfants, c'est pas des choses, c'est mes enfants. Non, là, c'était trop.
On a entendu le témoignage de Noémie qui a consulté un certain nombre d'énergéticiens, de naturopathes à distance. Elle prenait rendez-vous sur une plateforme. Donc on va se connecter sur cette plateforme qui s'appelle Soigner Heureux. Voilà, donc je crée un compte. Dans la barre de recherche ici, on peut faire une recherche de spécialité. Alors, il y a allergologue, andrologue, anesthésiste, réanimateur, des spécialités de médecine tout à fait classiques. Et entre ces spécialités, on découvre d'autres pratiques, aromathérapeutes, énergéticiens, pratiques alternatives en santé, kinésiologues. On va tenter de prendre rendez-vous avec un énergéticien, par exemple. Donc, on lance une recherche. Et là s'affiche toute une liste d'énergéticiens avec lesquels on peut prendre rendez-vous. Effectivement, le tout premier d'entre eux, qui s'appelle Julien, propose une consultation au tarif de 0€. La description nous explique qu'il s'agit d'un magnétiseur coupeur de feu, rééquilibrage. Pour fixer un rendez-vous, il suffit de faire une demande n'importe quand. Alors, il y a un rendez-vous disponible, par exemple, cet après-midi. Ah, voilà un appel qui est sans doute... Oui, allô ?
Oui, bonjour, Julien de Soigneur.
Oui, bonjour, merci.
Vous allez bien ? Je me permets de vous appeler parce que j'ai vu vos réservations pour un soin. Donc du coup, je voulais voir un petit peu avec vous quand est-ce que vous pouvez être disponible.
Alors, je me présente comme journaliste et je me rends au lieu de rendez-vous. Julien a choisi l'étage d'un café, il y a travaillé, il connaît le gérant. Car d'habitude, ces consultations se font surtout au téléphone, à distance. Il ne dispose pas de local dédié. On est là dans ce café pour une consultation avec vous qui êtes énergéticien. Comment on va procéder ?
Exactement. Pour commencer, je vais calculer votre taux énergétique. Chaque chose dans l'univers a un taux énergétique, que ce soit les objets, mais également les êtres humains, les animaux, pour voir s'il y a des blocages. Parce que s'il y a des blocages, le taux énergétique sera forcément faible.
Et comment vous le mesurez sur moi ?
Alors, je le mesure grâce à un outil qui s'appelle le pendule.
Un peu comme le professeur Tournesol.
Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Et du coup, j'utilise une planche qui s'appelle une unité de Bovis. Parce qu'en fait, le taux énergétique se mesure via l'unité de Bovis.
Ok.
Voilà.
Bah, je vous laisse.
Écoutez, Rémi, c'est parti. Du coup, je vais lancer mon pendule pour regarder votre taux énergétique ici et maintenant. Et là, mon pendule, en fait, va me donner le taux énergétique exact ici et maintenant. Faut pas s'inquiéter, hein, mais c'est vrai que là, il plonge vers le bas. Et là, il me donne un résultat de 800. Un taux énergétique qui est plutôt faible. Okay. Donc, il y a des blocages derrière. Donc, après, on va aller regarder plus loin quels sont les blocages. Et comment je vais pouvoir vous aider à les enlever pour vous faire remonter votre taux énergétique. Donc Rémi, si vous êtes prêt, on peut y aller.
Je suis prêt.
Ok, ça marche.
Donc là, vous voyez, bien préciser qu'on est à peu près à 1 mètre de distance et que vous ne me touchez pas.
Non, je ne vous touche pas et c'est vrai que c'est un exercice qu'on aurait pu faire également à distance. Hein. Vous auriez pu être à Dubaï. Là, on est face à face, mais on aurait pu être bien plus éloigné. Donc vous voyez, là, j'ai enlevé une première chose qui était au niveau de votre épaule. Et maintenant que je l'ai retirée, je suis en train de refermer la faille énergétique. Là, vous en avez une deuxième au niveau du bassin. Donc là, je vous la retire. Alors, je ne sais pas, Rémi, si vous ressentez quelque chose.
Rien de particulier, pour l'instant, en tout cas.
On va vérifier, si tu veux bien, Rémi. On vérifie ton taux énergétique. Allez, c'est parti. Quel est le taux énergétique de Rémi, ici et maintenant ? T'étais à 800 et là t'as déjà dépassé les 4000 et tu vois c'est en train de remonter doucement, tu vois, donc là t'es à 5000.
Julien, vous avez 36 ans, vous êtes donc énergéticien. Comment vous êtes-vous formé à cette pratique et à quel moment ?
Alors, c'est vrai que moi, j'étais pas du tout là-dedans toute une grande partie de ma vie. C'est à 30 ans à peu près, donc il y a 6 ans, que ça m'est tombé dessus, réellement. J'étais dans la restauration, j'étais restaurateur, j'avais deux business à m'occuper. Donc, j'étais au four et au moulin. J'ai eu une voix la nuit qui m'a réveillé et qui m'a parlé. Et qui m'a dit que j'étais pas là sur Terre pour faire de la restauration, que j'avais une autre mission de vie. On m'a commencé à m'expliquer que ma mission de vie était d'aider les gens, de les soigner, de les guérir. Je fais ça gratuitement, ouais.
Vous avez parlé de soins. Justement, est-ce que vous êtes en capacité de soigner des symptômes de maladie ?
Tout dépend, en fait, ce que vous appelez maladie. Il y a certaines choses qui sont, en fait, énergétiques, qui rentrent dans la case maladie. Ce genre de choses, je peux le soigner. Après, voilà, je suis pas médecin, je ne pratique pas la médecine. Je pratique un autre art, qui est l'art énergétique, ce qui est assez différent, même si parfois ça peut se rejoindre sur certaines choses, ouais.
Vous nous avez dit que certaines maladies sont l'expression d'un autre mal que vous êtes en capacité de débloquer. Est-ce que ça s'applique à des maladies graves de type cancer ?
On peut accompagner les patients, on ne remplacera pas la médecine, mais on peut accompagner, on peut aider les personnes, même atteintes de cancer, à aller mieux, au moins peut-être mentalement, voilà, avec certaines pratiques. Par exemple, les personnes qui font de la chimio, qui peuvent aussi brûler un petit peu les cellules, voilà, nous, on peut venir apporter notre magnétisme pour aider, en tout cas, la personne à traverser ça, ouais.
Est-ce que vous conseilleriez à ces patients qui, justement, suivent une chimiothérapie d'arrêter cette chimiothérapie?
Non, bien sûr que non. Je vois dans, sur quel terrain vous voulez m'amener, mais je suis pas du tout là pour dire aux gens arrêtez la médecine, pas du tout. Après, voilà, je pense qu'il y a des médecins qui peuvent conseiller aussi à leurs patients de faire des techniques, voilà, sans forcément arrêter. Voilà, je vous dis, hein, c'est pas, voilà, c'est pas l'un contre l'autre. Je pense que c'est un tout pour aider les gens, ouais.
La MIVILUDE, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, pointe aujourd'hui les pratiques comme les vôtres, pratiques d'énergéticiens, de naturopathes, qu'elle qualifie de dérapeutes, et qui estime qu'il s'agit là de pratiques qui peuvent conduire à des dérives sectaires, à une forme d'emprise sur les personnes qui viennent consulter des énergéticiens comme vous. Qu'est-ce que vous pensez de ce constat ?
Bah après c'est leur avis, c'est pas le mien, c'est voilà, non, moi j'aide les gens ponctuellement, le but c'est pas de les avoir au téléphone toutes les deux semaines ou tous les jours, mais je vois pas tellement le lien entre une dérive sectaire. Après, que ces techniques soient pas aimées de Big Pharma et de tout l'argent que ça génère, ça je peux le comprendre, surtout quand on le propose gratuitement. Aujourd'hui, on a un peu cette impression que dès qu'on sort du discours officiel de la doxa, on est traité soit de complotiste, soit d'anti système, soit de secte, c'est un peu facile.
Je précise bien qu'il n'y a strictement à notre connaissance aucune accusation qui vous vise vous personnellement, mais qu'on a choisi de vous rencontrer pour mieux comprendre comment se passent les soins proposés à travers la plateforme Soignez Heureux.
Si cet énergéticien ne fait l'objet d'aucune procédure, ce n'est pas le cas du naturopathe Fabien Moine que nous allons rencontrer un peu plus tard au cours de ce reportage. Son nom à lui est connu à la MIVILUDE. Et c'est ici, dans ses locaux, que nous retrouvons Rémi Brancato et Marc Garvenès. Le dernier rapport de l'organisation fait part de plus de 4000 signalements en 2021. C'est une hausse de 33% par rapport à l'année précédente. Et même plus de 80% en 6 ans. La MIVILUDE est hébergée dans un ministère parisien, mais pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons pas dire lequel.
Allô, oui, bonjour. Ok, très bien. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure.
Toc, toc, toc.
Oui, bonjour, monsieur. Madame, conseillère santé à la MIVILUDE. Actuellement, elle a une activité professionnelle. D'accord. Donc, en fait, ce que vous craignez, c'est qu'elle s'engage dans une nouvelle activité professionnelle qui pourrait lui faire prendre le risque d'infractions, en fait, réglementaires, comme l'exercice illégal de la médecine, c'est ça ?
Oui. D'accord.
On est dans votre bureau, Chantal.
Voilà.
On a devant les yeux, dans votre messagerie, un certain nombre de courriers à traiter. Ces sollicitations qui concernent donc le domaine de la santé, vous les voyez exploser. Vous avez de plus en plus de demandes.
Oui, clairement, oui. Alors, cette explosion, elle était déjà remarquée quand je suis arrivée, oui, en 2012. Depuis 2015, mais ça a explosé vraiment depuis le confinement, oui. Parce que les offres étaient encore plus accessibles qu'avant.
C'est-à-dire ?
Sur Internet. On passait beaucoup de temps chez nous, à domicile, puisqu'on était confinés. Et donc, derrière notre écran, et à rechercher, où dois-je me faire vacciner contre le Covid ou pas. Donc, il y a eu énormément de blogs, de sites, et d'influenceurs, et de personnes qui ont profité de cette aubaine, de clientèle captive.
Oui, oui, absolument. C'est simplement que j'avais oublié. À tout à l'heure.
Christian Gravel, je suis préfet et président de la MIVILUDE, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.
Le dernier rapport de la MIVILUDE a pointé une transformation en quelque sorte du phénomène sectaire. et pointe le rôle de ce qu'il appelle des gourous 2.0. Qu'est-ce que c'est qu'un gourou 2.0 ?
En fait, vous avez une offre sectaire qui s'adapte aux évolutions de notre société. Donc vous avez évidemment ces dernières années eu deux phénomènes. D'une part, la révolution numérique, avec non plus l'émergence, mais la prégnance de nouvelles formes de communication à travers les réseaux sociaux qui ont constitué une opportunité en or pour ces individus-là qui peuvent envisager des groupes privés, plus ou moins confidentiels, envisager des transactions financières de manière très discrète à travers le numérique.
Ça signifie que le temps des grandes entreprises sectaires, des grandes sectes façon ordre du Temple solaire est révolu ?
Ce temps-là n'est pas révolu. Vous avez encore un certain nombre de structures, de multinationales présentes depuis des décennies, qui continuent à sévir, à poser de problèmes, à embrigader un certain nombre d'individus qui deviennent des victimes. Mais en parallèle, vous avez, on a vu apparaître donc cette profusion de nouveaux acteurs, multitude de micro-entreprises facilitées par l'émergence de ces réseaux sociaux. Le deuxième élément important récent, c'est bien évidemment tout ce qui s'est produit autour de la crise sanitaire, avec là aussi le cumul des éléments apparaissant sur les réseaux sociaux, notamment complotistes, qui aussi contribuent largement à alimenter ces réseaux-là, ces dynamiques-là.
Vous parlez des moyens dont disposent ces entreprises sectaires, celles qui sont en tout cas installées depuis plusieurs décennies. Quels sont ceux de la Mivilude ?
Ces dernières années, il y avait eu, par exemple, une période pendant laquelle, pendant 2 ans, il n'y avait pas eu de président à Mivilude. Et puis, il y a eu le transfert de Matignon à Beauvau. Et puis, ce transfert s'est traduit concrètement par une baisse d'effectifs. On est passé de 15 à 8 conseillers. Aujourd'hui, nous sommes à 12 conseillers, 10 présents et 2 en cours de recrutement, donc on va être 12 dans quelques semaines. Et l'idée, comme l'a annoncé la ministre, c'est de pouvoir opérer une augmentation en faisant en sorte qu'on revienne au niveau qui était celui de Matignon, avec une quinzaine de conseillers.
Est-ce qu'on a perdu du temps ? Est-ce qu'on a, par exemple, trop prioriser la question de la lutte contre la radicalisation, c'est ce que me disent certaines associations, au détriment de la lutte contre les phénomènes sectaires.
Pour des raisons évidentes, il fallait mettre l'accent sur et la prévention et la lutte contre la radicalisation, étant donné la réalité à l'époque et la réalité encore aujourd'hui de ces phénomènes. Je ne reviens pas sur ce qu'on a évoqué. Voilà, il y a une période où, factuellement, il y avait moins de moyens. C'est pas la question de perdre du temps. Moi, ce qui compte, c'est qu'on puisse agir. En tout cas, depuis que je suis là, on s'y attelle tous les jours avec l'équipe. Et puis, je vous dis, travail avec les associations qui est fondamental.
Nous allons rencontrer une personnalité dans le viseur de la Mivilude. Il s'appelle Fabien Moine et compte désormais 100 000 abonnés sur YouTube. Il se présente comme naturopathe hygiéniste, dit avoir encadré plus de 1000 participants lors de stages de jeûne. Mais il ne consulte plus en cabinet. Il se consacre à sa maison d'édition pour, dit-il, promouvoir les liens entre médecine conventionnelle et soins naturels. Nous le rencontrons sur son stand au salon Bio & Co à Besançon.
N'hésitez pas, messieurs, dames, venez découvrir des semelles de confort, massage et amorti. Approchez, soyez curieux.
On y trouve plusieurs titres d'ouvrages, Jeûne et santé, ou encore La thyroïde et le mystère des émotions.
Je vais vous prendre un miel d'acacia et un miel d'été, s'il vous plaît.
Ça fait 24,50.
Est-ce que vous prenez la carte ?
Non, chaque US.
Ici, au parc des expositions Micropolis, les thérapies naturelles sont très présentes, des algues, des plantes sauvages, des pierres, avec aussi 70 conférences. Fabien Moine en donne 5 en 3 jours, c'est l'une des têtes d'affiche.
Alors la naturopathie, c'est une discipline qui a une petite centaine d'années dans le monde occidental, qui regroupe une dizaine de techniques, donc l'alimentation, les conseils des compléments alimentaires, l'aromathérapie, la phytothérapie, bref, différentes techniques qui viennent se greffer en complément d'une prise en charge par la médecine allopathique.
Vous dites qu'elle vient en complément de la médecine traditionnelle. C'est comme ça que vous considérez la naturopathie ?
Moi, je le considère comme ça. Après, c'est très hétéroclite au niveau de la formation. Et puis, n'importe qui peut se recommander naturopathe sans avoir un diplôme justement qui est d'État.
Fabien Moine revendique avoir été formé par un professeur de biologie dans le secondaire, devenu encadrant de stage de jeûne.
Moi, je peux comprendre les problématiques qu'il y a au niveau de la naturopathie, parce qu'en fait, c'est des problématiques qui se posaient il y a 40 ans pour l'ostéopathie. C'était très raillé, alors bien sûr parce qu'elle venait lorgner sur les plates-bandes des kinésithérapeutes. Et puis, ça s'est intégré naturellement, où maintenant, il n'y a plus de soucis, allez voir un ostéopathe.
Que préconisez-vous dans vos stages de jeûne ?
Alors moi, je préconise rien, en fait. L'idée, c'est d'être en accompagnement individuel, en fonction de eux, ce qu'ils ont eu comme évaluation avec leur médecin généraliste, pouvoir recommander dans un cadre sécurisé l'absence d'alimentation solide. Et donc, ça sera la prise de jus, ça sera la prise de bouillon, voire pour certains, temporairement, la prise uniquement d'eau.
Vous parlez de stages encadrés. Sont-ils encadrés par des médecins ?
Les miens, non, parce qu'en fait, je ne prends pas de personnes qui ont des pathologies. Et en fait, je leur demande d'aller demander l'avis d'un médecin, soit leur médecin généraliste. Mais le problème, là aussi, c'est que le médecin doit connaître à minima la pratique du jeûne. Et en fait, j'avais fait un film, un documentaire, il y a 3 ans, qui s'appelle « Le jeûne à la croisée des chemins ». Il y a une poussée de gens qui veulent jeûner, à juste ou mauvais titre, mais il faut que les professionnels de santé sachent leur répondre si c'est indiqué ou contre-indiqué. Et bien, il faut que les pouvoirs publics s'emparent de cette problématique-là pour qu'il y ait une réglementation, mais qu'il y ait une réglementation sur la base de vraies études. Le jeûne, quand même, ça fait l'objet de nombreuses études, notamment du professeur Walter Longo, énormément en Russie. Comme je disais, en France, et bien, il n'y a pas de financement. C'est pour ça que c'est un appel au pouvoir public de dire les autres pays font ce travail-là, il nous faut maintenant sécuriser au moins le candidat au jeûne.
Bonjour à toutes et à tous. Le 7 mars, mardi 7 mars, j'ai été convoqué pour une garde à vue à laquelle je me suis rendu librement, et comme les 2 jours suivants d'ailleurs, avant d'être présenté devant le juge d'instruction vendredi. Je vous dis ça parce que dans cette courte vidéo, on va parler aussi du délire médiatique qui s'en est suivi. La presse joue un rôle très grave dans cette affaire. Ils marchent main dans la main avec des groupes de pression qui veulent voir disparaître toute forme de pensée alternative et leur même mise sur l'information.
Récemment, il y a un nom qui a fait la une des journaux, c'est Thierry Casasnovas qui a été mis en examen pour exercice illégal de la médecine et abus de faiblesse. C'est un youtubeur qui défend une alimentation crue notamment et la pratique du jeûne. La consommation de fruits et légumes crus, selon lui, peut prévenir et traiter des maladies jusqu'au cancer. On lui reproche notamment d'avoir incité des personnes à ne pas suivre leur traitement. Que pensez-vous de cette mise en examen ?
Un, je ne connais pas les pièces du dossier. Et deux, ça n'a pas encore été jugé. Donc je pourrais donner un avis de bistrot qui n'a pas grand intérêt.
Seriez-vous prêt à conseiller à quelqu'un de se soigner uniquement par des traitements naturels, alternatifs aux médecines conventionnelles ?
En fait, ce n'est pas du soin. Ce n'est pas se substituer à la médecine. C'est venir en complément.
Et pour rentrer dans le concret de votre pratique, est-ce que vous avez déjà conseillé à un stagiaire ou à une personne venant vous consulter de ne pas prendre des traitements médicaux conventionnels pour soigner une maladie, qu'elle soit bénigne ou grave ?
Je ne peux pas donner un avis sur un traitement où je n'ai pas une formation. Donc, c'est-à-dire si quelqu'un me dit j'ai ce traitement-là hormonal, je ne suis pas oncologue.
Donc vous ne l'avez jamais fait ?
Non, je ne l'ai pas fait.
Dans sa maison d'édition, Fabien Moine publie « Des médecins ». Comme Louis Fouché, figure des sphères anti-vax, médecin réanimateur suspendu qui a fondé le collectif Réinfo Covid. Son dernier livre est préfacé par Didier Raoult. Fabien Moine partagera avec lui, début juin, l'affiche d'un congrès de médecine intégrative, c'est-à-dire de médecine qui intègre les thérapies naturelles.
Voilà. Je vous prends le dernier bouquin de Fabien Moine.
Ouais, c'est
Isor.
C'est Isor la Mourule.
Est-ce que c'est possible de régler en chèque ? Combien vous doit
82. Là, vous dédicacez quoi ?
C'est un ouvrage que j'ai écrit avec une amie médecin, guide de remèdes familiaux.
Votre prénom ? Alors, ça, c'est pour Stéphanie. Okay. Ça fait 3 mois que mon associé, ma femme et moi, on a switché suite à tes vidéos et à les bouquins qu'on a lus, notamment celui-ci.
Ouais.
Je voulais comprendre ce que je mange et pourquoi je mange et pourquoi j'ai faim et de quoi j'ai faim. Ça parle à toutes les générations. J'espère que mon fils qui a 22 ans va bientôt comprendre un peu comment tout ça, ça fonctionne. Ce que je trouve formidable dans ce que tu fais, c'est que tu donnes du sens sur comment fonctionne le système digestif, comment on fonctionne, mais pas que ça, la respiration, l'environnement, enfin notre environnement, les émotions. C'est tellement important, les émotions, j'avais pas compris à quel point on mangeait. Avec ses émotions. Le jeûne aussi, je fais le jeûne intermittent maintenant. Et ça a vraiment été une ouverture d'esprit, ça, pour moi, de comprendre, une prise de conscience.
après qu'on se soit parlé pour prendre ce rendez-vous, la MIVILUDE, la mission interministérielle de lutte et de vigilance contre les dérives sectaires, nous a confirmé qu'elle avait reçu des signalements vous concernant, au moins 3. Est-ce que vous étiez au courant ?
Ah non, je suis pas du tout au courant, non. Non, je suis assez... Ok. Je sais pas. Je comprends pas pourquoi, surtout que je pratique plus depuis des années. Je fais pas de consultation depuis des années, je suis éditeur. Après, évidemment, dès l'instant qu'il y a une prise de parole publique, ça engage des avis extrêmement favorables ou défavorables. Et puis on vit un temps, comme je l'ai dit, de chasse aux sorcières. J'en sais rien, non, j'ai pas été contacté. D'ailleurs, c'est assez bizarre que des journalistes soient informés avant les premiers concernés.
Est-ce que vous avez déjà reçu des plaintes de personnes qui vous auraient consulté dans le cadre de vos activités de naturopathie ou bien de participants à vos stages de jeûne ?
Non, j'ai jamais eu de plainte, non. J'ai pas eu de plainte. Je sais pas. Après, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas été contents des échanges qu'on a pu avoir, mais moi, j'ai pas eu ces retours-là, ouais.
Pendant le salon, nous avons assisté à une conférence de Fabien Moine. Le thème, prendre sa santé en main naturellement. Il disserte durant une heure sur la complexité du vivant, le Covid qui a abîmé le lien social entre humains.
Et de plus naturel. Et il m'est arrivé de rencontrer des personnes qui disaient, moi je me soigne uniquement naturel, j'ai un épisode cancéreux, on m'a diagnostiqué un cancer, donc je viens vous voir pour guérir mon cancer de manière naturelle. Et donc, il ne peut pas y avoir de réponse à ça. Je dis, mais que dit l'oncologue, que dit le médecin ? Et bien moi, je suis anti-médecine, je suis pro-naturel. Ça veut dire quoi, pro ? Je dis, est-ce que tu es pro-vie ou anti-vie ? Est-ce que vous comprenez ? On tombe direct dans le dogmatisme et dans le réductionnisme.
Jamais aucun propos répréhensible. Pas de rejet de la médecine traditionnelle quand il évoque le cas de cette personne atteinte d'un cancer. Mais Fabien Moine ne dit pas non plus qu'il la renvoie chez son médecin. Il y avait devant lui une centaine de spectateurs.
Fabien Moine a tenu à enregistrer l'intégralité de l'entretien réalisé par notre reporter.
Veuillez patienter, nous traitons votre appel. Vous pouvez entrer.
Bonjour.
Laisse vous installer.
Merci.
Alors, je m'appelle Delphine Guérard, je suis psychologue clinicienne, psychanalyste et expert auprès de la Cour d'appel de Paris.
On se trouve dans votre cabinet. Il se trouve que c'est dans ce cabinet qu'il vous est amené de recevoir des gourous, des personnes mises en cause pour des faits d'emprise, d'abus à caractère sectaire, dans le cadre d'expertise judiciaire. Que cherchez-vous à savoir quand vous recevez ces personnes mises en cause ?
Alors, c'est des entretiens qui sont extrêmement difficiles, hein, parce que justement, ces personnes se présentent comme extrêmement adaptées et lisses. Ils ont rien à dire véritablement et ils expliquent que eux, il y a vraiment un malentendu, qu'ils ont jamais rien fait, qu'ils font tout au mieux. Souvent, ils évoquent la question d'un complot qui a lieu contre eux. Et alors, quand je vais les interroger sur leur histoire, ça va être assez compliqué. Ils vont en faire une histoire extrêmement dramatique. En fait, ce qui est important de souligner peut-être, c'est que les dirigeants de sectes ont dit des gourous, mais en fait, le terme est complètement dévoyés, parce que ce ne sont justement pas des gourous, ce sont des imposteurs. Gourou, c'est vraiment, en Inde, on appelle, voilà, c'est un maître à penser qui initie, qui a une pratique et qui initie véritablement. Là, les dirigeants de sectes, ils prétendent initier, mais il n'y a aucune initiation en fin de compte.
Quel trait de caractère commun, si tant est qu'il y en ait un, avez-vous retrouvé chez ces personnes accusées d'abus, d'emprise à caractère sectaire ?
Alors, ce sont des personnes qui sont extrêmement séductrices. C'est des séducteurs, c'est-à-dire qu'ils vont être à l'écoute, ils vont se montrer très intéressés par vous. Et puis, il y a aussi ce sentiment grandiose qu'ils ont d'eux-mêmes.
C'est-à-dire
qu'ils pensent qu'ils ont des pouvoirs, des dons, parfois supranaturels, extraordinaires, surnaturels, et qu'ils peuvent tout, en fait, hein, qui peuvent agir sur la nature, sur le temps, sur la vie, qui peuvent voir au-delà, être en relation avec les esprits, guérir, même si dans un temps, un autre temps, ils vont complètement nier le fait qu'ils dirigent un groupe, qu'ils ont une pratique, qu'ils sont guérisseurs, thérapeutes, coachs. Voilà. Et eux, ils vont dire, non, moi, je dirige rien du tout. Moi, je fais juste ce que je peux. Mais dans un second mouvement, ils vont dire, mais je suis quand même fantastique.
Est-ce qu'il vous est arrivé d'être face à des personnes tellement manipulatrices qu'il a été compliqué de mener à bien cette expertise, cet entretien ?
Oui, tout à fait. À chaque fois, c'est extrêmement difficile parce que la personne, dès la première seconde de rencontre, tente de me manipuler.
Vous êtes manipulé ou vous vous laissez manipuler délibérément ?
Alors, je suis dans une attitude où, effectivement, je ne vais pas être très rigide avec mes questions préétablies et tout un cadre que je vais poser. Non, je vais laisser la relation s'instaurer. Et donc, dans ce processus d'ouverture où je laisse la relation s'instaurer, l'autre en face va prendre le pouvoir sur moi et donc va vraiment avoir tendance à diriger l'entretien et à ne pas répondre à mes questions quand j'en ai. Et aussi va parfois me valoriser, me dire qu'il entend Dieu à travers moi. Ou voilà, ils vont vraiment me manipuler. Je me retrouve dans un état où je ne peux plus penser. C'est-à-dire que l'autre exerce son emprise sur moi, veut prendre le pouvoir, donc elle m'empêche de penser. Je ne peux plus poser mes questions, l'entretien m'échappe, donc là, je sens que l'autre exerce son emprise. J'arrive à m'en extraire ensuite et à pouvoir les analyser quand je vais écrire mon rapport. C'est vraiment que dans ces entretiens-là, parce que moi, je suis expert donc auprès de la Cour d'appel de Paris, donc je peux avoir des personnes voilà, qui n'ont pas commis ces faits-là, hein, des violeurs, par exemple, mais qui n'ont pas exercé d'emprise sur leurs victimes.
Dans ce long chemin pour sortir de l'emprise, les victimes doivent avant tout prendre conscience qu'elles ont perdu leur aptitude à penser par elles-mêmes. Des associations les aident, elles et leurs proches. Rémi Brancato et Marc Garvenet sont allés à Lille, au CAFES, le centre d'accompagnement des familles face à l'emprise sectaire. Ils y ont rencontré des proches, comme Michael. Il s'est rendu compte l'an passé que sa mère, décédée depuis d'un cancer, était sous l'emprise d'un charlatan. Selon lui, il l'aurait empêché de suivre le traitement qui aurait pu, peut-être, la sauver.
France Inter, Interception.
Monsieur, c'est monsieur...
Michael Ablincourt.
Oui, Ablincourt, monsieur Ablincourt, comment allez-vous ?
Très bien,
très bien.
Mieux qu'il y a quelques temps.
Bon, c'est vrai que là, c'était maman, hein, je crois.
C'est ça, exactement.
Et le café, ça vous a bien accompagné ?
Ah, bah, exactement, du début jusqu'à la fin. Dès le premier jour, je vous avais vu au téléphone aussi, Mélodie.
C'est vrai, c'est vrai. C'est Mélodie qui suit le dossier.
Exactement.
D'accord, d'accord.
Bon, du coup, on s'est vu la dernière fois, ben, il y a quelques mois maintenant.
Quelques mois.
On avait donc envoyé donc un courrier au procureur pour expliquer du coup un petit peu ce que votre maman l'avait vécu. On avait dénoncé du coup les pratiques d'un pasteur qui avait tendance à être à avoir beaucoup d'exigences, notamment financières, etc.
Moi, j'ai été contacté par le commissariat de Tourcoing où ils m'ont demandé un complément d'information. Ils ont voulu. J'ai eu la personne en charge de l'enquête qui m'a posé quelques questions.
Je l'ai eu au téléphone.
Okay. Et je lui ai fait part également des nouveautés du dossier, en l'occurrence que ma mère est décédée le 16 octobre et que je souhaitais que la procédure continue.
Et du coup, au niveau de... on avait dit aussi, voilà, peut-être en parler un petit peu, la famille autour de soi, les amis de votre maman. Est-ce que vous avez pu en parler un petit peu autour de ses amis, sa famille, au cas où il y avait d'autres éléments qui remontaient ?
Alors, j'en ai parlé à quelques personnes, puisqu'ils ont pu voir des faits qui leur semblaient troublants. En revanche, c'est difficile d'obtenir un réel témoignage écrit de leur part.
Voilà.
Mais par exemple, moi, j'ai eu une personne qui m'a expliqué qu'elle a rencontré ce pasteur, qui a réalisé une prière pour cette personne, et en contrepartie, cette personne a dû payer 5 euros auprès du pasteur puisqu'il a réalisé une prière. Donc ils ont été choqués de cette situation, ils ont trouvé que c'était des comportements qui ne se faisaient pas. Mais c'est des petits témoignages et c'est des personnes avec qui je ne suis pas forcément proche, mais j'ai les coordonnées.
Ouais.
Et donc, on l'avait évoqué de... Pourquoi pas citer ces quelques exemples dans le courrier auprès du procureur de la République. L'étape suivante, à l'issue, la police... Donc, si je comprends, ils vont...
Ben, en fait, là, les enquêteurs, ils sont en train de rassembler tous les éléments qu'ils peuvent avoir. Ils vont tout remonter au procureur. Le procureur, c'est lui qui décide après s'il donne suite ou pas.
D'accord. Tout est lancé, tout est engagé.
Ouais. Tout est dans les tuyaux, reste... maintenant il faut le temps de l'enquête.
Parfait.
Moi, je suis Mélodie, je suis chargée d'accompagnement familial à l'association depuis environ 5 ans.
Il existe des critères qui vous permettent de déterminer s'il y a ou non emprise sectaire.
Alors oui, alors il y a des critères qui ont été établis donc par un psychiatre, pardon, un pédopsychiatre. Principalement, on retrouve déjà une adhésion inconditionnelle. On va avoir perdu toute capacité, je vais dire, de critiquer. On dit, on fait. Point. On a cette allégeance inconditionnelle. On a ensuite, par exemple, une imperméabilité à tout avis extérieur. Vous n'allez plus être en capacité d'entendre, d'accepter ce que votre proche vous dit si ça ne va pas dans votre sens. Vous voyez ? Vous avez également tout ce qui est rupture avec la cohérence dans la vie d'avant. C'est à ce moment-là que les familles elles viennent nous expliquer « je ne le reconnais plus, il ne mange plus pareil, il s'habille plus pareil, il parle plus pareil, etc. » Donc on en a une dizaine de critères, je ne vais peut-être pas tous les exposer. Toutes ces petites choses qui, mises bout à bout, peuvent laisser penser à une emprise de caractère sectaire.
C'est très compliqué de faire prendre conscience à quelqu'un qui est sous emprise qu'elle est sous emprise. C'est en quelque sorte une victime qui n'a pas conscience de l'être.
Bien sûr, la personne elle n'a pas conscience du tout d'être victime de quelque chose parce que, alors je pose bien les choses, on ne parle pas d'être bête, d'être naïf, etc. C'est une vulnérabilité sur laquelle un leader, un mouvement, etc. a joué. Donc on arrive sur une personne qui petit à petit en fait a descendu les marches et a perdu son esprit critique. Elle pense que ce qu'elle a découvert est fabuleux, que c'est peut-être la réponse à un problème ou à tous les problèmes, donc elle n'a pas de raison d'en douter. Mais ce raisonnement-là, couplé à une manipulation soigneusement préparée, la personne, en fait, petit à petit est conditionnée au fait que voilà, toute personne qui n'est pas d'accord avec elle est contre et s'opposera. Et à ça, le manipulateur la prépare à faire bloc et ensuite à rompre complètement.
Michael Aplincourt, vous avez 33 ans, vous êtes aujourd'hui sans emploi, ingénieur de formation. Votre mère est décédée en octobre dernier d'un cancer généralisé. Vous estimez qu'elle aurait pu se soigner de ce cancer. Pourquoi ?
Elle a consulté des médecins, mais systématiquement, le traitement qu'on lui proposait ne lui convenait pas. Elle ne souhaitait pas suivre le traitement conventionnel et elle était alimentée à travers... la croyance que des miracles étaient possibles à travers des prières, à travers des pratiques parallèles.
Vous découvrez à ce moment-là que votre mère est probablement sous emprise d'un pasteur. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ?
Alors, je savais qu'elle avait ses croyances, ses convictions, et puis je respecte la religion de quiconque. Elle était dans une croyance évangélique. Néanmoins, il y a quelques années, elle a fait le choix de partir, de faire son culte sur Bruxelles. Et petit à petit, je me suis rendu compte que ce pasteur, il avait un impact dans sa vie, mais un impact majeur. C'est-à-dire qu'elle lui demandait de l'approbation pour faire telle ou telle chose. C'est des petits bouts de phrases cumulés à répétition quand on voit les conversations Messenger. Mais effectivement, il y a des relations qui sont quand même tarifées, puisqu'on voit passer des messages avec des Western Union. Sur les relevés de compte, on peut voir des virements qui ont lieu sur le nom du pasteur. Donc effectivement, il y a des transactions qui se font.
Vous estimez que cette emprise qu'a vécue votre mère est à l'origine du fait qu'elle a refusé de se soigner ou qu'en tout cas elle a retardé les soins pour ce cancer qui était au départ un cancer du sein ?
Moi j'en suis convaincu à travers les éléments que j'ai pu découvrir. Pour donner un exemple très simple, quand elle était gravement malade au mois de mars 2022, elle sortait d'un jeûne de 30 jours. À l'issue, on lui promettait des miracles. Quand on a un corps qui doit se battre contre une maladie, et qu'elle n'appliquait pas son traitement de chimiothérapie qui était recommandé, et qu'à la place, elle réalisait un jeûne avec des prières, nécessairement, ça l'a complètement affaiblie. Et puisque le pasteur a su très rapidement que ma mère était à l'hôpital, et il a voulu rentrer en contact avec moi. Je ne savais pas comment réagir. Et c'est là où je me suis mis sur Internet pour me dire « je ne peux pas rester seul face à ça ». Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre contact avec la CAFES, qui, d'ailleurs, lors de ce premier point téléphonique, donc j'ai eu Mélodie au téléphone, il y avait aussi un caractère d'urgence, il fallait savoir comment agir face à ce pasteur. Ben, suite à l'accompagnement de la CAFES, j'ai compris une seule chose aussi, c'est que face à quelqu'un qui est sous emprise sectaire, on ne peut pas lui faire front, à lui dire « t'es dans une emprise sectaire, il faut que tu ouvres les yeux ». C'est beaucoup plus profond que ce qu'on peut imaginer, et personnellement, tant que je ne l'avais pas vécu, je ne pouvais pas le comprendre. Elle se rendait absolument pas compte de cette forme de manipulation.
Vous avez engagé une démarche judiciaire, on l'entend, il y a une enquête en cours.
Je n'imaginais pas les choses autrement. Elle n'est plus là, je ne peux pas refaire le passé. Néanmoins, l'impact que ça a pu avoir sur la vie de ma mère, cet impact peut avoir lieu sur quelqu'un d'autre. Donc aujourd'hui, je souhaite absolument aller au bout de cette démarche pour qu'on puisse communiquer davantage sur les dérives sectaires. Ce pasteur, aujourd'hui, il agit toujours sur d'autres personnes. Elle en a fait l'expérience, la triste expérience.
Thérapie alternative, le nouveau risque sectaire, c'était un reportage de Rémi Brancato avec une prise de son de Marc Garvenès et Nicolas Mathias. Réalisation Charles de Cilia, assisté de Martine Messonnier, mixage d'Ophar Guéride. Cette émission est déjà à la réécoute sur le site de France Inter.